à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Claire Auzuret et je vais vous parler de mon travail de thèse en sociologie, intitulé « Analyse des processus de sortie de la pauvreté, pauvre un jour, pauvre toujours », qui a reçu le prix de recherche 2018 de la Fondation de recherche Caritas sous l'égide de l'Institut de France. Ma thèse est l'aboutissement d'un travail de recherche réalisé entre 2010 et 2017. Elle s'est initialement inscrite dans le cadre du projet de recherche UCAP, Usage des chiffres dans l'action publique territoriale, coordonné par Martine Mespoulet, professeure de sociologie à l'Université de Nantes. Réalisé au sein du laboratoire de recherche du Centre Nantais de Sociologie, ce travail a bénéficié d'une allocation régionale des Pays de la Loire et du soutien des partenaires institutionnels de la ville de Nantes, du Conseil général et de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique. J'ai d'abord abordé l'objet de recherche de ma thèse en envisageant d'examiner les facteurs et les processus qui contribuent à l'entrée de travailleurs dans une situation de pauvreté. Cependant, au fil des lectures effectuées durant la phase exploratoire de l'enquête, j'ai choisi d'étudier un point aveugle de la sociologie de la pauvreté, celui de la sortie de cette situation. La construction de mon objet de recherche s'inscrit dans un cheminement intellectuel qui a démarré avec mes années de Master 1 et 2 à l'Université de Poitiers, durant lesquelles j'ai mené une enquête auprès d'une population d'ouvriers dans une usine de fabrication de produits lactés. En pratiquant l'observation participante, lors de ma première année de Master, j'ai identifié les stratégies d'adaptation et les savoir-faire que les ouvriers développent pour concilier les efforts nécessaires à la réalisation de leur travail et le maintien d'une bonne santé. Au cours de ma deuxième année, j'ai ensuite travaillé sur les causes des conflits entre les salariés de l'usine. Les résultats de ces enquêtes ont nourri la réflexion qui a débouché sur la construction de l'objet de recherche de ma thèse de différentes manières. Tout d'abord, l'analyse que j'ai menée en master sur le rapport au travail et à l'emploi des ouvriers a soulevé un questionnement sur les facteurs qui retardent l'insertion professionnelle des travailleurs et sur ceux qui peuvent contribuer à leur entrée dans la pauvreté. En effet, en réalisant des entretiens approfondis relatifs aux trajectoires scolaires et professionnelles des intérimaires, j'ai observé la manière dont certains événements intervenant dans leur scolarité pouvaient accroître le risque de faire l'expérience de la pauvreté. Ces premiers résultats ont contribué à l'élaboration du questionnement de recherche de ma thèse en m'incitant à interroger les facteurs qui peuvent expliquer le basculement d'individus et de ménages dans la pauvreté, mais aussi hors de cette situation. De plus, au cours de ces années de master, j'ai noté la nécessité de travailler sur le cheminement biographique des individus et sur les tournants majeurs qui interviennent dans leur parcours de vie, afin de mieux comprendre leurs effets sur les expériences de la pauvreté. Ainsi, dans le cadre de ma thèse, en tenant compte de l'aspect dynamique des trajectoires de vie, je voulais aller au-delà du simple repérage d'événements qui contribuent au basculement des personnes et des foyers dans la pauvreté et hors de cette situation. Je désirais aussi interroger la manière dont s'imbriquent ces facteurs et la façon dont s'opèrent les passages d'un état à un autre et sous quelles conditions. Par ailleurs, il me semblait important d'analyser les contextes dans lesquels se construisent les trajectoires de vie des individus, puisque les conditions économiques, sociales et politiques qui constituent le cadre de vie des personnes et des foyers ont des effets différenciés sur leur entrée dans la pauvreté et sur la façon dont elles peuvent sortir de cette situation. Pour cette raison, je voulais donc mener une analyse des parcours de vie en les inscrivant dans un territoire donné. Enfin, je voulais appréhender les pratiques et les stratégies que les individus et les ménages développent pour faire face aux aléas de la vie qu'ils rencontrent. Progressivement, je me suis donc donné pour objectif d'explorer les éléments constitutifs des sorties de la pauvreté d'individus et de ménages vivant en milieu urbain. Ma problématique de travail, telle que je l'ai construite, m'a conduite à penser la sortie d'une situation de pauvreté comme un processus qui repose à la fois sur des indicateurs monétaires, de conditions de vie et subjectifs, et sur les caractéristiques du territoire dans lequel vivent les personnes. Pour répondre à mon questionnement de recherche, j'ai choisi une population composée de ménages de travailleurs pauvres. L'intérêt pour ces ménages s'explique notamment par l'apparition d'une nouvelle forme de pauvreté que je perçois comme paradoxale et qui se caractérise par la coexistence du travail et de la pauvreté. J'ai aussi choisi d'inscrire ma recherche dans le territoire nantais, puisque les spécificités de ce territoire, telles qu'un taux de pauvreté des habitants bas par rapport à d'autres villes de la même taille, laissent supposer que la sortie d'une situation de pauvreté des individus et des ménages qui y vivent est facilitée. Pour identifier les facteurs et les processus qui créent les situations de pauvreté et ceux qui permettent d'en sortir, et pour comprendre la complexité de ces processus, j'ai combiné deux méthodes d'enquête. L'une quantitative, basée sur des données chiffrées de la CAF, et l'autre qualitative, qui a reposé sur des entretiens semi-directifs à caractère biographique. Pour passer du volet quantitatif au volet qualitatif de l'enquête, j'ai construit un échantillon de personnes à interroger, composé de 31 ménages qui a visé à rendre compte de la diversité des parcours de pauvreté des individus et des ménages. Pour trouver les personnes que je souhaitais interroger, j'ai d'abord élaboré un échantillon à partir des foyers allocataires présents au sein du fichier de la CAF. Mais j'ai aussi pris contact avec des bénéficiaires d'associations caritatives et d'associations de réinsertion professionnelle et sociale. Je suis aussi allée solliciter des allocataires devant les bâtiments de la CAF. La prise de contact avec ces personnes s'est faite soit en face à face, soit grâce à des intermédiaires associatifs. Je me suis présentée à elles en tant qu'étudiante en sociologie qui réalise une étude sur les différentes étapes de la vie des personnes qui éprouvent ou qui ont éprouvé des difficultés à boucler leur fin de mois. Et je leur ai expliqué que je m'intéressais aux pratiques qu'on peut mettre en place pour améliorer son quotidien lorsque l'on rencontre ce type de situation. Ma présence devant les bâtiments de la CAF a été à l'origine d'un a priori sur ma position. En effet, malgré les précisions apportées sur mon statut d'étudiante, tour à tour, j'ai été perçue par les allocataires comme une employée de la CAF, une assistante sociale ou comme une conseillère de Pôle emploi. Ainsi, la confrontation à une population d'enquête fuyante qui s'explique notamment par la crainte liée à l'existence d'une distance culturelle, sociale et économique entre le sociologue et les personnes qu'il sollicite a aussi mis en lumière une peur de l'institution, de ses représentants et de ses supposés représentants. Néanmoins, malgré les nombreux refus d'entretien auxquels j'ai été confrontée, j'ai également noté que le sentiment d'une singularité dans le parcours de vie des personnes que j'ai rencontrées pouvait au contraire accroître l'acceptation de l'échange. En effet, parmi les personnes qui ont accepté de participer à l'enquête, toutes n'avaient pas les mêmes dispositions et intérêts à faire état de leur situation. Certaines ont accepté l'entretien parce qu'elles considèrent le début de leur parcours de vie comme inhabituel, en raison de maltraitance et ou de viols vécus dans l'enfance et ou à l'adolescence. D'autres considèrent que leur trajectoire est singulière sur le plan professionnel. Elles éprouvent des difficultés à se maintenir durablement en emploi et mettent en avant leur volonté de s'en sortir face à l'enquêtrice. Pour d'autres encore, les échanges noués à l'occasion de l'enquête semblent représenter une possibilité d'élargir leur réseau de relations. Quand cela a été possible, les entretiens se sont déroulés au domicile des personnes. Au début de chaque interview, j'ai rappelé le thème de l'enquête, mon statut d'étudiante, et j'ai présenté les trois temps de l'échange aux personnes que j'ai interrogées. Un premier temps portait sur la situation des enquêtés au moment de notre rencontre. Un second temps concernait la reconstruction de leur parcours de vie. Et une troisième partie de l'entretien se rapportait aux pratiques et aux stratégies développées par les personnes pour se maintenir dans un parcours ascendant. Je n'ai pas éprouvé de difficulté pour faire accepter l'enregistrement des interviews aux personnes que j'ai interrogées. Néanmoins, au cours des premières minutes de l'échange, les personnes ont été attentives aux termes utilisés. Progressivement, l'attention portée au langage s'est relâchée. Faire parler les parents de leurs enfants a souvent permis d'amorcer la dynamique de l'interview. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est plutôt le thème du travail qui a été l'élément déclencheur de leurs paroles. Les entretiens ont été assez longs. Ils ont duré 2h30, en moyenne. Par moments, lorsque les personnes me faisaient part de moments douloureux de leur parcours de vie, tels que des problèmes de santé, des licenciements ou des situations de violence conjugale, j'ai préféré les laisser parler plutôt que de perturber le déroulement de leurs pensées et ce qu'elles tenaient à exprimer et à m'expliquer. Néanmoins, je leur ai ensuite posé ou reposé des questions auxquelles elles n'avaient pas répondu, afin d'entrer dans le détail des trajectoires sociales d'une part et pour recroiser les informations recueillies et vérifier leur pertinence d'autre part. Au cours de l'interaction entre le sociologue et les personnes qui l'interrogent, ce dernier observe les émotions éprouvées par les enquêtés. Ces états affectifs peuvent être saisis à l'aide d'une communication verbale et grâce à un langage corporel. Par exemple, j'ai vu la gêne d'Eliseux s'exprimer dans des silences et des regards fuyants lorsqu'il a été question de travail au noir. J'ai pu appréhender la nervosité de Magali au début de l'échange en observant le basculement répétitif d'une de ses jambes, ainsi que sa surprise à la découverte de la petite taille du dictaphone. J'ai aussi pu observer la colère d'Annie, qui n'arrive pas à s'insérer durablement sur le marché du travail, s'exprimer dans le ton, le débit et le volume de sa voix. La fierté s'est également manifestée dans les yeux de Michel et Sylvie quand ils m'ont indiqué que leurs enfants poursuivent des études. Durant les interviews, mes cinq sens en éveil m'ont permis d'appréhender une partie du quotidien des personnes que j'ai interrogées. À ce titre, je me souviens très distinctement de la statuette de Coluche posée à côté de la télévision chez Michel et Sylvie, ou des changements de position répétés de Coralie sur son siège en raison de ses maux de dos. Je me remémore aussi la couleur jaune moutarde présente dans le salon d'Amandine, et j'entends encore le tic-tac de la pendule de Clotilde ainsi que le bruit des gouttes de l'évier qui fuient. J'ai aussi apprécié que Stéphane me fasse découvrir la texture des différents papiers et des divers crayons qu'il utilise dans le cadre de son activité d'illustrateur infographiste. Enfin, j'aimerais à nouveau remercier Kevin pour le café qu'il m'a servi lors de notre rencontre. Confrontée à ces situations singulières, je me suis souvent sentie coupable de réactiver la souffrance des personnes que j'ai rencontrées en leur demandant de retracer leur parcours de vie. Et j'ai régulièrement eu le sentiment de leur prendre quelque chose sans rien avoir de concret à leur donner en échange. Ainsi, comme le signale Jean-Pierre Olivier de Sardan, pour le sociologue, toute la difficulté est ensuite de combiner empathie et distance avec les enquêtés, et respect et méfiance envers leurs propos. Grâce à ce travail d'enquête, j'ai identifié des parcours de sortie de la pauvreté, des parcours faits d'expériences temporaires mais répétées de la pauvreté, et des parcours d'installation dans cette situation. La reconstruction du premier type de parcours montre que des caractéristiques spécifiques liées à un retour à l'emploi, à la constitution d'un couple et à la solidarité familiale, articulées à la perception d'aide institutionnelle, dessinent une configuration de facteurs favorables aux sorties de la pauvreté. Le second parcours, une fois reconstruit, explique les phénomènes d'intermittence entre des situations de pauvreté et de non-pauvreté. Il se caractérise par l'existence de freins à l'emploi et de ressources relationnelles insuffisantes dans le cas des personnes et des foyers qui en font l'expérience. Les freins à l'emploi qui ont été identifiés recoupent les principales discriminations à l'embauche et au cours de la carrière professionnelle que l'on trouve dans la société française. Enfin, grâce à la reconstruction d'un parcours d'installation dans la pauvreté, quatre obstacles à la sortie d'une situation de pauvreté ont été identifiés. La maladie, qui peut avoir pour cause l'intensification et la flexibilité du travail. La monoparentalité, consécutive à un divorce ou à une séparation, auquel s'ajoute un retrait progressif du marché du travail et l'isolement social, qui parachève un ancrage durable dans la pauvreté. Au terme de ce travail, plusieurs pistes de recherche restent à explorer. J'en ai retenu deux. Il faudrait développer des recherches qui mettent en relation les parcours professionnels et de santé des travailleurs, afin de mieux étudier les effets de la flexibilité du travail sur la santé des salariés et leur inscription dans un parcours d'installation dans la pauvreté. Il conviendrait aussi de mieux étudier les discordances entre les dimensions monétaires et subjectives de la pauvreté, c'est-à-dire l'inadéquation, qui existe entre la sortie d'une situation de pauvreté telle qu'elle est pensée et saisie par l'administration et telle qu'elle est vécue subjectivement par les acteurs. En effet, cette notion va au-delà d'un seuil de revenu. Sa définition doit aussi tenir compte d'autres indicateurs, comme la stabilité professionnelle qui est associée au type de contrat de travail, la qualité de l'emploi occupé, les caractéristiques du réseau familial et amical des personnes qui sont interrogées, ou encore la possibilité qu'elles ont de se passer des aides légales versées par les institutions d'aide et d'action sociale de manière durable. Je vous remercie.